pour les faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. On puisse voir le privilège que tu nous as donné d'être tes enfants et la responsabilité que tu nous as donnée d'être dans l'équipe de secours, dans cette équipe qui parcourt les places ici et là dans ce monde pour chercher qui voudrait de ton salut, qui voudrait que tu les sauves comme tu l'as fait avec nous. Pour faire comme ma sœur qui m'a parlé de l'Évangile, en parler à quelqu'un d'autre, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé possible. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chrétiens en mission, vous êtes en mission. Et donc, trois messages. On a vu que dans la mission du chrétien, il y a trois mouvements, au moins, dans la mission du chrétien. C'est la première étant, prochaine à cette étape, tu peux avancer. Yes. De vous vers l'Église locale. Et donc, quelqu'un qui est en mission, c'est d'abord quelqu'un qui a reconnu qu'il était appelé à faire partie de la mission qui est l'Église locale. On a vu que dans mon message premier, que l'Église est toujours vue dans le Nouveau Testament comme une assemblée locale, pas juste les gens sauvés. Mais que le Seigneur a vraiment à cœur que les chrétiens se rassemblent, qu'ils ne négligent pas leur rassemblement. Mais on a vu aussi qu'il y a beaucoup de versets, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui a péché, reprenez-vous les uns les autres. On a vu beaucoup, beaucoup de versets qui nous parlaient que c'était quelque chose qu'on devait prendre vraiment soin, cette Église-là. C'était le point de départ de la mission, puis dans mon troisième message, on voit que c'est le point d'arrivée aussi des gens qui arrivent du monde, puis qui ont besoin de trouver une maison d'accueil, si on peut dire, un lieu sécur, un lieu pour grandir dans leur foi. Alors, ça, c'était mon premier message, puis on a vu comment que, même moi, j'avais déjà dit à un moment donné, je dis, est-ce que Dieu peut ajouter 100 personnes dans une église si elle n'a pas elle-même la santé émotionnelle, la santé pour prendre soin d'elle-même, tu sais? Et donc, je me suis clenché une série de 22 messages sur la santé émotionnelle. Puis, entamer aussi des processus pour se rencontrer puis dire, « Hey, on gère-tu ensemble? On gère-tu parce qu'on va s'en aller à la mission? On va y aller, ça c'est certain. On va aller chercher les hommes, c'est certain, certain. » Mais est-ce que c'est une copie de nous-mêmes qu'on veut faire? On a vu que si on partait avec une mauvaise photocopie, puis tu fais des photocopies d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie, ben la copie devient noire puis elle fait de piètre qualité. Donc, l'importance d'avoir un corps de Christ ou une église locale qui se multiplie dans sa propre espèce, dans une qualité qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est dans le deuxième mouvement qui est celui de l'église locale vers le monde en deuxième. Donc, la mission, premièrement, c'est moi qui sors de ma petite vie, qui sort de mes préférences naturelles, puis qui appartient à un corps local de croyants. Le deuxième, c'est que je pars de l'église locale, puis je m'en vais dans le monde. Ça va être le message aujourd'hui. Si je vous disais, Gertrude m'a appelé ce matin, puis elle a demandé que tu puisses lui redonner le message qui a été donné un matin, changeriez-vous votre manière d'écouter? Donc, je répète, dans le fond, si jamais Juliette m'appelle, je pense que c'était Gertrude tantôt, ben Juliette aussi, elle m'a appelé. Fait que là, tiens, on a deux qu'il faut qu'il... Là, il faut que, dans le fond, elle aimerait ça, que tu lui redonnes qu'est-ce que tu as entendu ce matin. Est-ce que tu changerais ta manière d'écouter? Prendrais-tu des notes? Est-ce que tu irais peut-être réécouter le message une deuxième fois? Peut-être tu voudrais aller relire les versets pour approfondir un peu, parce que même si tu fais le messager, tu veux quand même savoir de quoi tu parles, tu ne veux pas juste répéter qu'est-ce que tu as entendu, tu veux le comprendre aussi. Eh bien, votre manière d'écouter changerait probablement, peut-être vous réécouteriez ou approfondiriez les versets. Donc, la question c'est, est-ce que vous prendriez à cœur cette préparation-là pour l'autre personne? Bien, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de se préparer. On a un grand privilège dans 1 Pierre. Ça, c'était mon premier message. J'exerce un ministère. Oui, aussi l'importance d'avoir chacun, si ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans l'église locale, d'avoir un ministère pour faire avancer l'église locale. Aujourd'hui, c'est prépare-toi à partager. Prépare-toi à partager. comme si quelqu'un n'avait pas pu venir ce matin, qui était malade, puis il aurait demandé que tu puisses lui faire cette commission-là. Prépare-toi à partager la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'avez pas obtenu miséricorde et maintenant, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alors, ce verset-là, il nous montre qu'on a vraiment un grand privilège. Je vais juste partir mon petit timer ici. Ah, je l'avais déjà parti. Good. Donc ici, c'est incroyable, race élue, peuple acquis, acquis par le précieux sang de Jésus. Puis une des raisons, pas la seule, mais une des principales raisons, c'est pour annoncer les vertus ou les choses bonnes de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une des raisons pourquoi j'ai été sauvé, c'est pour qu'il y en ait d'autres qui soient sauvés par mon entremise. Ça, c'est comme une loi du royaume. Dieu, il se coupe les deux bras, il se coupe le corps, tiens. Il demeure la tête, puis il nous dit, vous êtes mon corps, vous allez être ma bouche sur la terre, vous allez être mes mains et mes pieds sur la terre. Puis la manière que les gens vont savoir que Dieu a fait de grandes choses au travers de Jésus-Christ, ça va être par son corps. Le corps qui marche sur la terre présentement, c'est le corps de Christ, et chacun, ses membres, c'est nous. Et donc ici, le verset nous montre, tu as été sauvé pour que tu annonces quelque chose, pour que tu annonces l'Évangile. Oui, moi, vous dites, je ne suis pas évangéliste, puis je ne suis pas pasteur, puis je ne suis pas professeur d'école dimanche, je n'enseigne aucune classe. Vous avez été sauvés pour annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est un privilège en soi. C'est un privilège que Dieu choisisse d'annoncer son salut au travers des faibles créatures comme nous autres. Puis qu'ils veulent faire reposer ça sur nous, c'est une grande honneur et une grande responsabilité aussi. Et être un disciple consiste d'une certaine manière à aider d'autres à obéir à Jésus-Christ. Prochaine étape. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. On a un petit programme pour mettre le pointeur sur deux écrans. Good. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Passage qu'on connaît tous par cœur, passage qui est un des dernières, on l'appelle la Grande Commission, où ce que, dans le fond, ça nous dit aussi encore là quelque chose qui nous a été demandé. C'est d'obéir à une grande commission. Donc, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu des faiseurs de disciples. Et qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire quelque chose. C'est d'aller. Mais c'est intéressant parce que le mot « aller par tout le monde », ce n'est pas « aller » littéralement, c'est « en allant ». Donc, si dans ce passage-là, on est envoyé ou tout en allant, Jésus nous dit, tout en parcourant le monde, tout en faisant ton travail, en faisant tes loisirs, en vivant ta vie sur la terre, tout en allant, fais de toutes les nations des disciples. Et donc, il y a cette commission-là qui est tout en allant. Ça, c'est un truc, je vais en revenir un petit peu plus là-dessus plus tard. OK. Donc, le passage, il dit aussi que les gens de toutes nations doivent être des disciples. Hein? La fête de toutes les nations des disciples. Et normalement, ces disciples-là, quand tu vas avoir fini avec ou quand tu vas avoir continué avec, normalement, ils vont avoir appris à obéir à Jésus-Christ, à devenir un disciple. Ça veut dire pas juste d'apprendre, mais aussi d'obéir. Regardez, ils vont obéir, ils vont se faire baptiser. Ils vont se faire baptiser dans de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, je vais, ou vous allez leur enseigner à observez tout ce que je vous ai prescrit. Ouais, prépare-toi à partager. Prépare-toi à partager parce que s'il y en a dans ta famille ou dans les amis ou des gens autour de toi qui vont devenir disciples, c'est parce que tu vas avoir appris à partager. Puis tu vas les avoir aidés à obéir comme tu l'as fait juste précédemment. C'est quoi le prérequis de ça? C'est nous-mêmes d'avoir appris à obéir à Jésus-Christ, de s'être fait baptiser et d'être entré dans un cycle d'obéissance avec Jésus-Christ. Bon, si je disais à ma fille, quand elle était à la maison, et là, j'aimerais ça que tu fasses ton lit. Puis là, elle vient me voir le lendemain, puis elle dit, j'ai appris par cœur la consigne que tu m'as demandé, j'ai gardé ta parole. Fait que ce que tu m'as demandé, c'est de faire mon lit. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est assez mieux que ça, ma fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire son lit. Parce que garder la parole de Dieu, c'est pas juste de savoir ce qui est enseigné dans l'Écriture, c'est aussi de le faire. C'est apprendre pour faire quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont réduit l'enseignement dans une église chrétienne à accumuler des choses à savoir sur Dieu. C'est vrai, mais c'est pas juste ça. Ils prennent l'enseignement comme un bon repas que nous venons prendre, que nous assimilons, sans nécessairement rien faire, sinon d'avoir l'énergie que ce repas-là nous a produit. Mais en fait, l'enseignement de l'Écriture, ce que j'ai reçu d'un autre, n'est pas simplement une nourriture qui va me donner de l'énergie pour vivre ma vie, mais c'est aussi ça, un repas que j'apprends à préparer pour quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on on a réduit l'Église ou l'enseignement qu'on reçoit à « il faut que ça soit bon pour mon mariage, que ce soit bon pour ma vie, il faut que ça soit bon pour moi », mais que je ne l'ai pas pris, je l'ai consommé, il m'a procuré du bien, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que sa parole vienne nous affranchir, n'est-ce pas? Mais c'est plus que ça, c'est une recette que je viens apprendre à donner aussi. Et donc, c'est pour ça que les pasteurs, les évangélistes, les enseignants sont des gens qui sont là pour perfectionner les chrétiens en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous puissions nous dire les uns les autres la vérité dans l'amour. Et donc, c'est pas juste un repas que je viens consommer, mais c'est une recette que je viens apprendre. Et ça fait du sens parce que c'est comme ça qu'on va atteindre le monde pour Jésus-Christ. Sérieux, si l'enseignement chrétien, c'est de venir prendre un repas, trouver l'énergie pour ma vie, puis repartir vivre ma vie dans le monde, je serais pas un ambassadeur. Si vous écoutez cet enregistrement, ou si vous n'avez pas encore fait le pas de suivre Jésus-Christ comme votre sauveur ou de devenir obéissant à sa parole, sachez qu'il y a autour de vous des ambassadeurs qui ont pour mission de vous réconcilier avec Dieu. Chacun d'entre vous, n'importe lequel, vous pouvez aller voir ces gens-là. Ce sont des ambassadeurs au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, vous pouvez vous tourner vers eux. Vous êtes sur Internet, venez nous voir. Il y a des ambassadeurs de Jésus-Christ ici. Et ces gens-là, Dieu exhorte, il vous exhorte au travers de eux pour être réconcilié avec lui. N'importe quel chrétien qui a fait la paix avec Jésus-Christ est un ambassadeur. Et Dieu, par eux, vous réconcilie avec lui. C'est toute une responsabilité, tout un privilège en même temps. Donc, plus qu'on apprend à obéir à Christ, plus qu'on est capable d'en aider d'autres qui, peut-être, sont arrivés dans la foi un petit peu juste après nous autres, mais on peut se préparer à partager l'Évangile avec ces gens-là aussi. Puis, je ne parle pas juste d'évangéliser, je parle aussi de se redonner ce que nous avons entendu. Je vais vous conter une histoire ce matin. Je l'ai dépoussiéré un peu, je l'avais mis un peu de côté, ce livre-là, mais c'est un livre que je ne peux pas prêter. J'écrivais à quelqu'un dernièrement, j'aimerais ça te le prêter, mais c'est vraiment un livre qu'il faut que je fasse un livre de chevet avec ça. C'est un livre en anglais, malheureusement, mais je vais vous raconter, je vais vous traduire un peu son histoire. Je vais vous parler de l'histoire de Ying Cai et sa femme Grace. Hey, c'est une histoire qui est récente, là, on parle de 1994 à l'an 2000. C'est passé quelque chose d'extraordinaire au travers de la vie de Ying et de Grace, et ça continue encore. C'est le plus grand mouvement de conversion des temps modernes. Et donc, lui, ce monsieur-là, Ying, c'était un fils, il était chinois, et son père était missionnaire à Taïwan. Et donc, il a grandi dans une famille, tu sais, il connaissait c'était quoi l'Église et tout ça. Et son père a été pasteur pendant 28 ans et il a implanté 28 églises. Je vous en ai déjà parlé, mais moi, je ne m'étonne pas de cette histoire-là puisque c'est tout un modèle. Il y a beaucoup de choses que je veux reproduire de la vie de M. Ying. Il regardait la vie de son père, puis il trouvait que c'était un bon modèle quand même. Hein, tu sais, une église par année dans un milieu communiste, là où tu n'as pas le droit, tu as le droit juste à des églises du gouvernement, si on peut dire, ou licenciées par le gouvernement. Il a suivi les traces de son père, il est venu aux États-Unis, et là, il a étudié au séminaire. Puis après avoir fait son collège biblique, il a vu qu'au Texas, il n'y avait pas d'église pour les Chinois, alors il en a parti une. Dans la première année, ils ont eu 100 de personnes. La deuxième année, 200 personnes. Puis là, la troisième, ils leur disaient, vous savez, il y a 365 jours dans une année. Fait qu'il pourrait certainement y avoir une personne par jour à notre église qui accepte le Seigneur pour que l'année prochaine, on soit à peu près 400. T'sais. Puis là, l'année d'après, ils sont tombés qu'il y a eu 25 nouveaux ajouts à l'église. Puis il y en a 20 qui ont quitté pour le travail, pour des raisons médicales, peu importe des raisons d'éloignement ou de famille, mais il y en a d'autres qui n'aimaient tout simplement pas le pasteur. Finalement, il restait 5 nouvelles personnes de plus pour une église de 200. Puis là, il réfléchissait. Puis en 1994, je pense que ça faisait 4 ou 5 ans qu'il était là, il est allé en mission à Hong Kong. Et puis là, il était là-bas un an, il s'est assis à l'école, il a appris le cantonais, il dit que c'était très différent du mandarin. Et là, il a commencé à ouvrir une église par année, puisque son modèle, c'était son père. Il trouvait que c'était un bon modèle. On lui avait dit, écoute, tu t'en vas à Hong Kong, on veut que tu ouvres une église à toutes les 5 années. Et il a ouvert une église à chaque année. Lui et sa femme faisaient des plans du salut à la semaine longue. Lui, il dit, ma femme puis moi, c'est pas compliqué, il y a 2 catégories, les perdus puis les sauvés. Fait que si on rencontrait quelqu'un qui était sauvé, on lui demandait s'il voulait qu'on l'entraîne pour qu'il puisse gagner des âmes. Puis s'il était perdu, ben on l'entraînait pour qu'il puisse comprendre l'Évangile. T'sais. Fait que il offrait, lui, une formation. Une formation, si t'es pas sauvé, comment être sauvé, c'était le premier cours. Puis si t'étais sauvé, tu veux-tu apprendre à devenir un gagneur d'âmes pour Jésus-Christ ou obéir à Christ? Est-ce que tu obéis? Est-ce quelqu'un qui te forme? Non, peux-tu te former? Fait qu'il faisait 40 à 60 personnes par année. De nouvelles conversions qui s'ajoutaient dans l'Église puis qui apprenaient à obéir à Jésus-Christ. Et puis, c'était quand même bien. C'était quand même bien. Mais ce n'était pas du tout à comparer au mouvement que ce que je vais vous parler là. Et donc, il était missionnaire à Hong Kong. Après ça, 5 ans plus tard, il prend un an d'arrêt, revient sur le champ missionnaire puis on lui dit, écoute, on n'a plus besoin de toi ici à Hong Kong. Il y a 147 églises déjà d'implantées, ça roule, tu sais, on n'a plus besoin de missionnaires. Peut-être qu'il y aurait des parties du monde qui auraient plus besoin de toi. Et on va lui mentionner une partie en particulier. Dans le livre, il ne le dit pas parce que c'est vu que c'est communiste, il y avait des problèmes pour sa sécurité. Fait qu'il ne mentionne pas la place dans le livre. Par contre, ça a été vérifié. Tous les chiffres que je vais vous annoncer à matin, ont été vérifiés par une firme externe, puis on a découvert que les chiffres que Yinkai a apportés étaient 40 % plus bas que la réalité. Okay? Fait que les chiffres que je vais vous montrer ont été revus par une organisation qui est venue sur le terrain pour calculer ou comptabiliser le réveil qui s'est passé là. Donc, un an après, c'est ça, il revient finalement, il dit, tu n'as pas besoin d'être missionnaire ici, va ailleurs, tu devrais aller à cette place-là. Et là, il va dire, non, je n'irai pas là, c'est trop dangereux pour les chrétiens, tout ça. Fait qu'il revient aux États-Unis, à l'église qui avait parti, vous vous rappelez, au Texas? Fait que, il y a quelqu'un dans son église qui dit, hey, tu devrais aller en mission à telle place, la même place. Puis il dit, un homme d'affaires dans l'église qui a une compagnie avec 3000 ouvriers là-bas. Fait que l'homme d'affaires le rencontre, il dit, serais-tu intéressé d'aller là? Il dit, moi, j'aimerais beaucoup ça que les employés puissent entendre l'Évangile dans ce village-là. Fait que l'homme d'affaires, il dit, je vais te payer un voyage. Puis il dit, on va aller ensemble, je vais te montrer c'est quoi, puis après, tu prendras ta décision. Fait que le gars, il prend l'avion, puis ils s'en vont voir ce village-là. Puis là, il dit, tu vois, il dit, dans cette usine-là, il y a 10 000 ouvriers. Écoute, des villages ouvriers, là, les gens, des campagnes, dans ce pays-là, voyagent, ben, je sais que c'est en Chine, mais je ne sais pas où en Chine, ils vont voyager, ils vont aller rester dans des cubicules, puis ils vont être la propriété de la compagnie. Là. Tu sais, c'est un gros phénomène, ça, en Chine. Il dit, celle-là a 70 000 employés. Là, il commence à... Puis là, lui, Yinkai, il dit, voyait tout plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile. Puis il se disait, finalement, ils ont fait le tour comme ça, puis c'est une agglomération qui a environ 20 millions de travailleurs. Et il est revenu, puis il a dit, sais-tu quoi? On me l'a demandé quand j'étais à Hong Kong, on me l'a redemandé quand j'étais allé aux États, puis j'ai vu des perdus, puis il dit, j'embarque. Alors, il s'est embarqué en l'an 99, à la fin des 99, début 2000. Il y a eu un training, c'était au début 2000, training de 4 semaines. Et là, le jour, c'est le training, puis le soir, les gens retournent à leurs hôtels. Mais lui et sa femme restaient là, puis ils continuaient à travailler, puis à écrire, à essayer de penser à une façon de faire pour atteindre un plus grand nombre de gens. Alors qu'ils se grattaient la tête, qu'ils passaient leur temps à travailler ou à prier le soir, il y avait une affiche, et sur cette affiche, c'était écrit « Combien de gens de mon peuple entendront l'Évangile aujourd'hui? » Et il pensait à ces 20 millions de personnes qui pourraient atteindre avec l'Évangile, puis il pensait aussi à ces 40 ou 60 personnes qui conduisaient à Christ par année. Puis il disait, c'est impossible que si on amène juste 40 ou 60 personnes par année, qu'on va pouvoir atteindre des millions de personnes. Parce que ça fait juste de l'addition. Et donc, il est resté le soir, puis alors qu'il travaillait et priait, il a commencé à méditer sur le passage qu'on regarde aujourd'hui justement, qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et alors qu'il regardait ce verset-là, il a vu premièrement que ce n'était pas d'inviter les gens à l'Église. Ce n'était pas d'inviter les gens à l'Église. C'était d'aller et faire des disciples dans le monde. Ça, c'est la première chose qui l'a frappé dans ce verset-là. C'est qu'il fallait aller chez les gens, dans leur domaine, dans leur lieu, et en allant faire des disciples. Deuxièmement, ce qu'il a vu, c'est que souvent, on voit la formation de disciples comme étant quelque chose qui est adressé aux croyants. Dans ce verset-là, ce n'est pas adressé aux croyants, c'est adressé à toutes les nations. Toutes les nations sont appelées par Dieu à devenir des suiveurs de Christ. C'est sûr que la première règle dans Galates 6 est écrit que la règle, c'est de devenir une nouvelle créature. Donc, c'est certain que tu ne vas pas commencer à demander à une personne qui n'est pas sauvée de commencer à se marier, puis à se mettre en règle, puis à faire plein de choses. La seule chose qui lui est demandée, c'est de devenir une nouvelle créature, puis ensuite devenir un disciple. Mais tout le monde est visé par ça. Puis ça ici, c'est incroyable. Puis il va raconter à un moment donné qu'il a amené une personne, non, la personne était sauvée, mais la dernière personne qui pensait qu'il ferait un mouvement, c'était celle-là. Puis il dit, là, je me suis aperçu que dans le fond, il faut semer partout, puis arrêter de juger selon l'apparence, puis de dire toujours, ah, mais cette personne-là, elle ne veut pas. Ah, mais ils savent tout, je suis chrétien. Ouais, mon oncle Jean-Claude, il a parlé en mal de toi quand tu as accepté le Seigneur, ils savent en crime que tu es chrétien. Mais est-ce qu'ils savent? Est-ce que mon oncle Wong sait ton message? Et sais-tu en quoi tu as cru ou ils savent juste que tu es chrétien? Que tu vas à l'église parce qu'ils te voient avec ton complet le dimanche ou, tu sais, qu'ils savent que tu ne peux pas aller à certains parties parce qu'en même temps, il y a l'église puis tu veux pas manquer ton église. Mais à part ça, à part de savoir qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que tu as cru? Prépare-toi à partager. Et donc, ce qui est arrivé, là, c'est vraiment super. Fait que, après ça, ouais. C'est ça. La formation de disciples n'est pas visée pour les croyants seulement ou ceux qui vont être, après qu'on les a invités dans l'Église, on va les former. Non, on va aller chez eux jusqu'à temps qu'ils deviennent des disciples puis qu'ils quasiment soient prêts à se faire baptiser. Puis à la limite, ils vont se faire baptiser puis à un moment donné, on va les voir soudre dans l'Église. Sa façon de penser a changé. Au lieu d'inviter, c'était d'aller. Puis aussi, une chose qui est bien importante, un chrétien n'est pas un apprenant simplement, il est un obéissant. Puis un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Un chrétien disciple, c'est quelqu'un qui fait d'autres disciples. Regardez le passage. Ceux qui vont ici, là, c'est qui? C'est qui ça à qui s'est demandé d'aller? Ça, c'est envers qui ils doivent aller, toutes les nations, mais c'est qui doivent aller? Qui doit partir? Tous les chrétiens. Tous les chrétiens, regardez ça ici, dans le fond, pour remettre en contexte, Jésus apparaît à ses disciples. Puis il leur dit, garde, en allant dans le monde, faites des disciples. Donc, il demande à ses disciples de faire des disciples. Mais les disciples, là, la boucle n'est pas terminée tant que ces gens-là ne sont pas en train d'aller voir Manon Kwang puis ma tante Wang pour leur annoncer l'Évangile, leur offrir la possibilité d'eux aussi devenir des disciples de Jésus-Christ. Alors, dans ce passage-là, un disciple, c'est quelqu'un aussi qui fait d'autres disciples. Ça veut dire que ma tante Gertrude, qui nous a appelés un matin pour savoir s'il fallait qu'on y ramène le message, elle attend après le message. Et donc, la manière que tu écoutes ce matin, ce n'est pas juste de venir consommer un repas qui va te donner de l'énergie, qui va être bon pour toi. Oui, il va être bon pour toi, mais c'est une recette que tu viens apprendre pour aller marcher dans le monde. Puis après ça, toi aussi être un formateur. Et donc, lui a dit, c'est pas le mot « disciple » qu'on devrait prendre, le mot « mathétèse » veut dire « apprendre en vue de faire quelque chose », « apprendre d'un maître », c'est le mot grec pour « mathétèse », puis il a dit, on devrait dire que c'est des entraîneurs. Tous n'enseigneront pas dans une classe devant des gens, on s'entend, mais tous peuvent préparer l'Évangile à leur portée à eux pour être capable de redonner l'Évangile à quelqu'un d'autre? Est-ce que tout le monde sont appelés à enseigner, comme dans Jacques, c'est dit qu'il y en ait peu parmi vous qui enseignent, car nous serons jugés plus sévèrement? Non. Tous ne sont pas appelés à enseigner, mais tous doivent avoir la base de l'Évangile et être capables de répondre de cette base-là à quelqu'un qui en aurait besoin. Alors, prépare-toi à partager. Tu n'auras pas à venir parler au pupitre la semaine prochaine, OK? Il n'y a pas de devoir comme ça. Mais lui, il dit, hey, c'est d'abord, un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient apprendre des choses sur Christ, c'est quelqu'un qui vient obéir à Christ. Puis une des choses que Christ nous demande en obéissant, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de celui qui nous a appelés aux autres, tes enfants premièrement, ta famille, etc. Wow! Quel privilège, quelle responsabilité. Donc, on est en l'an 2000, et là, on lui assigne une région. Il ne connaît pas personne dans cette région-là, sauf un pasteur qu'on lui a donné son numéro, ou en tout cas, il l'a contacté. Puis ça venait d'un ami. Alors, il rencontre le pasteur, puis le pasteur il dit, « Si tu viens donner un séminaire à notre église, c'est une petite église de 60 personnes, il dit, c'est de quoi tu vas parler? » Ben, il dit, « Je vais... » Là, il dit, « Je ne pouvais pas leur dire que je viendrais faire un CPM qui se trouve être un Church Planting Movement, un mouvement d'implantation d'église. » Parce qu'il dit que le terme n'était pas bien reçu là-bas. Fait qu'il dit, « Je vais venir vous montrer comment partager l'Évangile rapidement. » Bon, le pasteur, il aime l'idée. À la rencontre, ça en va, continue. Puis là, il pose des questions sur la démographie, c'est-à-dire qui sont les gens qui habitent là, combien il y en a, etc. etc. Et donc, il y a 668 000 personnes, 22 districts, 100 à 200 villages par district, 20 à 40 familles par village. Donc, des petits villages de 20 à 40 pour un total de 3000 quelques villages. Alors, il dit, moi, il dit, ce que je vous propose, c'est que chaque ville ait une étude biblique dans sa maison. Alors, on parlait de 3000 études bibliques, là. C'était pas rien, là. Fait qu'il y en a qui l'ont regardé en voulant dire, avec un regard sceptique, mais il dit, je vais le faire. Bien, égal, passe à dire, écoute, on va faire une annonce, puis on va dire aux gens que tu vas venir donner un cours sur comment partager notre foi de façon rapide. Puis, on va voir s'il y a des gens qui se présentent. Fait qu'il dit, s'il y en a, qu'il y a assez de gens qui veulent avoir la formation, il dit, je te rappelle. Fait que quelques semaines passent, puis il dit, j'ai ramassé 30 noms. Fait que c'est la petite église de 60, 30 noms avaient été donnés. C'était tous des fermiers pour la plupart, des gens qui n'avaient pas de hautes études. Et donc, la soirée va commencer. Alors, il va arriver à 6 heures, puis il y a quelqu'un, une seule personne qui va être au bâtiment, puis il va lui dire, ça ne sera pas ici, ça va être à une heure d'ici. Fait qu'il a pris sa mobilette, puis ils ont monté trois sa mobilette. Il dit, c'était vraiment serré. Il dit, là, il dit, les gars travaillent dans les champs. Fait qu'il dit, ils finiront pas ben avant 7h30, 7h. Il y en a qui vont arriver en motocyclette, d'autres qui vont arriver à pied. Fait qu'il dit, on pourra pas commencer ben avant 8h, 8h30. Fait que, correct. Fait que la soirée commence tranquillement, et puis là, il commence à poser des questions. Il dit, pourquoi les chrétiens n'évangélisent pas? Et là, il va parler avec eux, puis il va sortir au moins trois raisons. Et les raisons qu'il va sortir, c'est qu'ils ne savent pas, je l'ai-tu ici, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont dire, ils ne savent pas à qui le dire, puis l'autre, je ne me rappelle pas, mais ce n'est pas le point à ce matin de toute façon. Alors, il va donner les raisons pour lesquelles, ah oui, c'est ça, puis il va sortir ce verset-là. Et dans ce passage-là, tout le monde va être convaincu que c'est la responsabilité de chaque croyant. Et l'Église n'est pas cette garderie, un peu comme une garderie, on envoie nos enfants ou à l'école, puis on dit, enseignez nos enfants. Tu sais. Bien, l'Église, ce n'est pas enseigner mes disciples non plus. C'est que chaque personne a cette responsabilité d'enseigner, en tout cas de partager. Alors, commence à parler, et là, il arrive 10 heures le soir, puis là, bien, il a parlé des raisons pourquoi on n'évangélisait pas et tout ça. Et là, il dit, bien, écoutez, il dit, je vais revenir une autre fois si vous voulez, puis il dit, je vais vous montrer comment partager l'Évangile facilement. Puis, mais il dit, voulez-vous que je revienne demain ou la semaine prochaine? Les gars ont dit, non, continue à soir. Fait qu'il a continué son exercice. Et il leur a demandé d'écrire sur une feuille de papier, de se diviser, puis de prendre une demi-heure. Puis là, il dit, je veux que vous écriviez votre histoire. Fait qu'il dit, c'est pas dur dans une histoire. Là, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a avant d'avoir connu Christ, comment tu as connu Christ, puis qu'est-ce qui t'est devenu après avoir rencontré Christ. Pas compliqué. Faites ça. Partez chacun de votre bord dans la salle, puis écrivez votre témoignage. Ensuite de ça, 30 minutes plus tard, il leur a demandé de se mettre en groupe de trois, puis il leur a demandé de se lire les uns aux autres. Mais en fait, avant, il a demandé à ce que les gars ils lisent leur témoignage à voix haute 5 fois pour l'apprendre par cœur, pour essayer de le lire sans regarder les notes. C'est parce qu'il n'y a rien de pire qu'une histoire qui est racontée de façon saccadée parce que tu ne la connais pas tout à fait, mais c'est ton histoire. Puis il disait, c'est facile parce qu'il dit, cette histoire-là, tu la connais déjà. Il faut juste que tu l'organises un peu. Alors, ils ont fait ça. Ils se sont divisés. Une demi-heure après avoir récité par cœur, 5 fois lu, puis ensuite récité éventuellement par cœur cette histoire-là, ils sont revenus ensemble. Puis là, il a dit, là, laissez-vous corriger les uns les autres. C'est-à-dire, racontez-la à voix haute à l'autre. Puis, s'il y a des tics de nervosité, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans le témoignage, ben dites-vous les uns aux autres, puis perfectionnez ce témoignage-là. Puis il a développé, lui il avançait, puis il était à la recherche de Dieu sur une méthode, puis il a développé la méthode des tiers. Le premier tiers, c'est la dévotion, l'étude biblique, c'est de comprendre des choses sur Dieu, puis de rendre des comptes sur les devoirs que j'avais à faire la semaine d'avant. Le deuxième tiers, c'était rendre des comptes, c'était la première. Dévotion, rendre des comptes. La deuxième, c'était l'enseignement du nouveau matériel. Puis le troisième, c'est pratiquer maintenant, puis va le faire d'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après 10 heures, après qu'il a écrit leur histoire, tout ça, il dit maintenant, je vais vous montrer une manière d'annoncer l'Évangile. Puis il leur a montré une manière facile d'annoncer l'Évangile. Puis là, il y en a qui font ça. Les fermiers, ils ont un bracelet avec 4 couleurs. Évangélisation explosive, ils ont la main ici. Il explique chacun des points de l'Évangile avec les doigts de la main. Fait que tu peux jamais dire, je n'ai pas mon truc d'évangélisation. C'est ta main. Tu sais. Fait que c'est vraiment génial. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que je veux susciter en vous 2 choses qui sont importantes pour préparer à partager. C'est de connaître votre histoire, vous la connaissez, mais de l'organiser, de la connaître et d'être prêt à la dire quand va venir le temps. C'est certain que le Saint-Esprit va utiliser si vous êtes préparé. C'est certain, certain. Préparer, il y a 2 choses à préparer. Votre histoire, puis l'Évangile. Annoncer l'Évangile. L'histoire, lui, ce qu'il a dit, c'est pas plus que 2 minutes. Faites une petite histoire, là. Partez-moi pas un témoignage. Là, les gens vont s'endormir, vont trouver ça long. Puis il dit, demandez pas la permission pour annoncer l'Évangile. Ce qu'il voulait dire, c'est, dites pas aux gens, veux-tu que je te parle l'Évangile? Ils vont dire, la majorité, non. Lui, il était aumônier dans un hôpital, puis il disait, quand je disais, bonjour monsieur, moi je suis l'aumônier de l'hôpital, j'aurais aimé ça vous parler de Dieu, est-ce que vous avez du temps? Ah non, je sais quoi, je n'ai pas le goût de l'entendre. Ah, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Et là, il a découvert qu'il faut de leur demander, pas s'ils veulent avoir l'Évangile, mais commencer avec notre histoire. J'aimerais ça vous raconter qui j'étais moi avant. Là, les gens aiment ça des histoires. Puis lui, il dit qu'il était un méchant mari, puis il dit, les gens aiment ça des histoires méchantes. Il dit, j'avais toujours leur oreille pour raconter l'histoire, puis j'arrivais tout doucement avec l'Évangile, puis je continuais avec l'Évangile. Puis il dit, avant, j'avais 1 personne sur 15 qui acceptait d'écouter l'Évangile, puis après ça, j'avais 7 ou 8 personnes sur 15 qui entendaient l'Évangile. Puis il dit, il y a eu beaucoup plus de sauvés de cette manière-là. Puis il dit, qu'est-ce qui l'a flashé, c'est qu'à un moment donné, il était allé dans un restaurant, puis les gens, ils disaient, avec votre déjeuner, voulez-vous, il y avait, je sais pas qu'est-ce qu'ils prenaient comme déjeuner, mais il n'y avait pas d'œufs dedans, puis on lui demandait, voulez-vous un œuf ou pas d'œuf? Il disait toujours pas d'œuf parce qu'il essayait d'être économe. Puis à un moment donné, il est allé dans un autre restaurant pour lui demander, voulez-vous un œuf ou 2 œufs? Ou 2 œufs? Ça fait qu'il dit, ben juste un, ça va être correct. Mais il dit, sa femme a dit, depuis quand? Elle dit, tu prends un œuf avec ce déjeuner-là? Ben il dit, elle m'a donné le choix entre 1 ou 2. J'en ai pris juste un. Alors, il y a la possibilité aussi d'être bien préparé, puis d'arriver, raconter son histoire, le cœur est disposé, puis de juste continuer avec l'Évangile. Puis ça, c'est des choses que, pour le moment, si on le sait pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que je veux apprendre, 1, à raconter mon histoire, 2, à présenter l'Évangile de façon créative et simple aux gens. Si aujourd'hui, j'ai juste stimulé ce désir-là, on repart pas avec des outils nécessairement, mais on repart avec cette responsabilité qu'on a de dire, OK, ben Seigneur, je vais me préparer. Je vais faire, quand il va y avoir un atelier sur comment présenter l'Évangile, en 5 points rapidement, ou peu importe, je vais venir dans cet atelier-là, je vais essayer de prendre cette responsabilité-là plus à cœur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe-là? Il leur a dit, avant qu'on se quitte ce soir, après, ils ont pratiqué aussi, ils ont appris à l'affaire, puis après ça, Ils l'ont fait avec un autre croyant. Ils se sont pratiqués avec d'autres croyants. Et puis là, ce qui est arrivé après ça, il a dit, OK, il dit là, il a commencé à leur poser la question. OK. En tout cas, je vais revenir plus tard pour ça. Fait qu'il leur a donné un devoir. Il a dit, d'ici la semaine prochaine, allez voir 5 personnes que vous connaissez, qui ne connaissent pas la vie éternelle, qui n'ont pas connu ce que vous avez cru, puis demandez-leur à leur parler, puis racontez votre histoire, puis annoncez-leur l'Évangile, puis on va voir ce que ça va donner. Fait que les gars sont partis avec un devoir, pas juste, hey, on va s'asseoir, puis on va entendre un bon message, on va dire, OK, on va prendre un message parce qu'il faut l'amener à quelqu'un d'autre. Ah! That's real life. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est ce que. C'est stimulant. C'est le cœur de Jésus pour les gens. Et donc, ils se sont revenus la semaine d'après, et je vais vous montrer juste le résultat de ce qui s'est passé. Puis après ça, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui a fait, qui a été la clé de ce mouvement-là. La multiplication avec un groupe de fermiers non scolarisés. La première année, il y a eu 53 000 baptêmes. 30 fermiers qui avaient un devoir d'annoncer l'Évangile à 5 personnes. 3535 groupes. Deuxième année, 104 542, 9320. Et ça ici, c'est pas additionné, là. Ça ici, on est rendu à pas loin de 12 000, là. Okay? Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la neuvième année, on avait 1 738 143 baptêmes. Ça veut dire qu'il y a eu des excuses qui ont tombé entre le moment qu'ils ont dit « je veux avoir la vie éternelle » à « je veux me faire baptiser pour obéir à Christ » et « je veux aussi en amener d'autres à Jésus-Christ pour qu'ils obéissent eux aussi à Christ ». Ces gens-là qui sont venus parce que c'est ce qui a fait une multiplication de 158 993 groupes dans un pays communiste. Fermé à l'Évangile. C'est intense, non? Je suis stimulé. Les quatre questions qui devaient répondre ces fermiers-là, ce soir-là, il y avait quatre questions à répondre pour devenir des kingdom shakers, des ébranleurs de royaume. Et la première chose qu'ils devaient répondre, c'est « qu'est-ce que je vais dire? » La deuxième, c'est « à qui dois-je le dire? » La troisième, « qui te dit que je vais le faire? » Tu me demandes de le faire, mais qui te dit que je vais le faire? Puis quatrièmement, qu'est-ce que je fais si les gens disent oui? À partir du moment où ils ont dit oui, je fais quoi après? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vais dire? Ben, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit raconter notre histoire du avant, quand on est venu à Christ, puis après. Si on était trop jeune pour enfants, on a une formation pour ça. On ne se rappelle pas, on n'a jamais volé des banques là, parce qu'on était, on avait 7 ans qu'on a accepté la vie éternelle puis on n'a pas vraiment vu un gros changement. Là. Vous avez un témoignage extraordinaire si vous êtes venu au Seigneur en tant qu'enfant. On va le voir dans une formation, mais c'est quand même dans une histoire qu'on peut le raconter. Raconter sa propre histoire en 3 ou en 2 parties. Ça doit faire, lui, il leur avait dit que ça ne devait pas dépasser 2 minutes et on devait utiliser des mots qui étaient connus, c'est-à-dire, on ne dit pas... Depuis que j'ai été régénéré, je suis né de nouveau, j'ai accepté le Seigneur, j'ai été délivré des ténèbres. C'est tous des termes que la personne qui n'a jamais lu l'Écriture a dit « Oh, tu viens de trop loin, toi, avec ton jargon. » Donc, utiliser des mots vraiment de la vie courante quand on raconte notre histoire. Et puis, l'écrire, le lire à voix haute plusieurs fois, fermer les yeux et tenter de réciter cette histoire-là. Peut-être aujourd'hui, c'est juste ça que vous allez faire, vous. Peut-être que vous allez repartir, vous allez dire, hey, je vais essayer d'écrire mon histoire, je vais la lire à voix haute, je vais la lire à mon mari, puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Je vais le lire à ma femme ou à un frère chrétien ou une sœur dans le Seigneur, puis je vais lui demander qu'il me dise vraiment ses commentaires, positifs, négatifs, les nervosités, parce que je veux pas, même si on le fait avec un autre frère, on se transpose quand même qu'on va l'annoncer à des non-croyants, puis là, on est un petit peu gêné. Fait que être ouvert à la critique. Puis là, ensuite, l'avantage de commencer l'évangile, l'évangélisation par notre propre histoire, c'est que tu n'as pas besoin d'un pamphlet, comme je disais tantôt, tu connais déjà ta vie, et personne ne peut dire « je ne suis pas d'accord ». Et c'est ça qui est fort dans le postmodernisme aujourd'hui. Les gens disent toutes sortes de niaiseries, mais ils racontent un témoignage. Fait que t'es comme, comment tu veux contredire une histoire? C'est quand même fort. J'ai vécu quelque chose. C'est fort. Les gens ne peuvent pas le réfuter. Et c'est rare qu'on refuse quelqu'un qui s'ouvre à nous. Et aussi, raconter son histoire, ça met un genre de « je te parle de ma vie ». Tantôt, je vais te poser une question personnelle. T'es-tu sûr d'aller au ciel? Puis ça, c'est personnel. Comment vous sentirez si quelqu'un viendrait vous voir chez IGA en ville pendant que vous êtes en train de faire votre épicerie, vous ne connaissez pas par votre nom, vous n'avez jamais vu, vous ne savez pas c'est qui, puis il vous dit « bonjour madame, comment vont vos reins? » Vous le regarderez et vous direz « pourquoi cette question? » Ah ben pourquoi si j'irais dans un IGA au centre-ville et je dirais à une personne « madame, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? » Hey, c'est personnel ça. C'est une des choses les plus intimes du cœur d'une personne. Alors, en parlant vous-même, en parlant de votre histoire, vous mettez la table pour parler des choses personnelles. Puis là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle s'ouvre aussi à des sujets spirituels avec vous. En tout cas, je ne peux pas donner une formation sur l'évangélisation. Le but, ce n'est pas ça. L'idée, c'est, je veux que vous vous préparez à partager votre témoignage. S'il n'est pas prêt, il n'y aura pas non plus une cible précise dans votre témoignage qui va vouloir vous mener à l'Évangile. Fait que vous allez raconter, puis à un moment donné, vous allez vous perdre dans cette histoire-là, puis vous ne serez pas rendu à parler de la croix. La personne va juste dire « Ah, Dieu est bon, moi aussi je crois ça. » Par contre, si c'est ciblé, on peut le travailler, on peut le réécrire, on peut le biffer, effacer, rajouter, tu peux le modifier. Tu ne changes pas ta vie, mais tu changes la manière que tu décris. Puis il y a beaucoup de détails qu'il faut enlever. Et je pense que c'est ça. Il faut apprendre à ne pas tout dire quand on évangélise aussi. Donc, à être simple pour être reçu. Alors, les gens vont écouter votre histoire. Deuxièmement, la question que ces fermiers-là devaient répondre, c'est à qui le dire? Je vous pose la question, à qui est-ce que vous devriez dire votre histoire? À qui? À tout le monde? À tout le monde. D'autres? Des versets qui nous disent ça? Est-ce que vous avez annoncé l'Évangile à tout le monde? Oui, le verset qu'on venait de voir. Hein? De maison en maison. À des places, ils disent, n'allez pas de maison en maison. Ça, c'est quand tu te voyais venir, là, tu sais, comme des fois, on les voit arriver là, de loin. Puis à d'autres places, ça dit, allez de maison en maison aussi, en voulant dire, assurez-vous que vous avez fait toutes les places. Oui. Assurez-vous de les avoir toutes faites, ces places-là. Mais pratico-pratique, c'est-tu faisable ça d'annoncer à tout le monde tout le temps? Pas nécessairement. Par contre, le corps de Christ, tout le monde ensemble, on peut avoir annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Alors, cette soirée-là, il leur a dit, écoutez, dans l'Ancien Testament, quand Dieu sauvait un homme, il sauvait aussi sa famille. Souvent, il prend l'image de Noé. Noé a été sauvé, sa famille a été sauvée avec lui. Ensuite, on prend Lot. Lot a été sauvé, ses filles ont été sauvées, ou sa famille a été sauvée. Sa femme a décidé de ne pas l'être, mais elle avait l'opportunité de l'être. Rahab, c'est écrit que Rahab a été sauvée, et aussi ceux de sa famille. Et donc, en prenant toutes sortes d'images comme ça, il est arrivé dans le Nouveau Testament aussi, puis on a vu un prisonnier qui, la prison s'était ouverte, puis là, ben, il était en danger, puis... il est en danger de mourir, le geôlier, puis finalement, on est allé chez eux, chez lui, puis le geôlier a soigné les plaies de Paul, puis c'est écrit que dans la nuit, toute la famille a accepté le Seigneur, puis qu'ils ont été baptisés, puis Paul est revenu en prison, ils ont fait semblant de se faire emprisonner encore, pour pas que le gars il se fasse tuer, finalement. C'est toute une belle histoire, mais le prisonnier, lui, sa famille a été sauvée et ils ont été baptisés. Corneille qui reçoit Pierre qui avait une vision, puis tout c'est écrit que lui et toute sa famille étaient rassemblés, puis Pierre est venu puis a annoncé l'Évangile, puis ils ont tous été sauvés. Le démoniaque de Gadara, le possédé de Gadara, très intéressant. Le gars, il y a des démons qui sortent, ils s'en vont dans les ports se suicident, puis le possédé il dit, garde, moi je veux te suivre, Astar, tu sais, puis Jésus dit non. Reste de ce côté-ci du Jourdain, parce que lui était pas en Israël. Il dit, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Et ça, c'est ce que chacun de Dieu nous demande aussi. Retourne dans ta maison, puis raconte, prépare ton partage, prépare ton histoire. Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui, dans Luc 8. Verset 39. On s'aperçoit que plus tard, Jésus va retourner là, puis il y a plein de gens qui vont entendre l'Évangile, puis il va y avoir une grosse multiplication de pain. Il y a des milliers de personnes qui vont être là. D'où ce qu'ils viennent, ces gens-là? De la Décapole. Cette Décapole, c'était l'endroit où ce démoniaque avait évangélisé. Puis c'est écrit qu'il n'est pas allé juste voir sa famille, il est allé aussi voir son village. La Samaritaine, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Donc, dans Jean, c'est quoi la Samaritaine? C'est Jean 4. Jean 4. Alors, le focus de la question, c'est à qui? Et là, il a reposé la question, il dit, c'est vrai que vous pourriez me dire à tout le monde, mais pratico-pratique. Et là, je vais vous demander de prendre une feuille de papier puis un crayon. Là, vous êtes, si vous n'en avez pas l'audiovisuel, j'ai demandé à Stéphanie de voir avec l'audiovisuel pour préparer des crayons et des papiers pour vous dépanner. Fait que levez la main si vous n'en avez pas, puis on va vous en apporter. OK? Donc, tu peux baisser ta main, toi aussi. Y en a-tu d'autres qui en auraient besoin d'un crayon? OK. OK, parfait. Excellent. Y en a-tu ici aussi? Parfait. Fait qu'on va juste vous passer ça. Ouais, prends ton iPad. C'est cool. C'est encore mieux. Bon choix. Je vais vous demander de, en réflexion, mais aussi pour préparer votre évangélisation dans votre domaine, d'écrire le nom de gens autour de vous que vous ne savez pas s'ils connaissent l'Évangile ou ils ne marchent pas avec Dieu pour le moment. Ça peut être vos enfants, ça peut être des collègues de travail, des gens qui n'ont pas nécessairement entendu l'Évangile comme vous l'avez cru et donc qui auraient besoin d'entendre l'Évangile. Écrivez les noms. On va faire pause sur l'enregistrement. Hein? Ah, écris tant que tu peux. Écris tant que tu peux. Ah, on va peut-être te faire... peut-être tu vas continuer la liste chez toi, mais commence là. Fait que là, il a tout de suite pensé, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Fait qu'il a dit, encerclez parmi tous ces noms-là, les 5 personnes, priez d'abord, demandez une conviction pour quelle personne vous devriez aller voir. OK? Et prenez les plus favorables aussi, parce que c'est la première fois que vous allez raconter votre histoire aussi. Donc, si vous pensez qu'ils vont être favorables, mais comme on a vu, c'est tout le monde qui est destiné à l'Évangile, mais commencez avec les plus favorables. OK? Et donc, commencez à prier pour ces gens-là, encerclez 5 personnes sur cette liste-là, puis commencez à persévérer dans la prière dans le but qu'un jour, Dieu, par le Saint-Esprit, vous ouvre une porte pour que vous puissiez raconter votre histoire, mais votre histoire doit être préparée aussi. Donc, c'est un devoir, ça, si vous voulez. Vous pouvez commencer à prier. Et éventuellement, alors que vous êtes à l'aise, eh bien, regardez pour une opportunité de présenter votre histoire. Si vous entendez qu'à un moment donné, on donne un atelier sur comment écrire son histoire, tout ça, bien, abonnez-vous. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, là, j'aurais pu ne pas faire ce message-là parce que je ne crois pas à l'évangélisation du pupitre. Je ne crois pas à l'enseignement en magistral d'un cours d'évangélisation. Je crois que si je veux, admettons, que Sylvain devienne un gagnant d'or, ben il faut que je l'amène avec moi puis que je travaille avec lui pour le faire, pour le stimuler dans ça parce que je suis un évangéliste. Par contre, aujourd'hui, ce qui est important pour moi en tant que votre pasteur, c'est qu'on puisse voir que chaque personne dans ce lieu est un ambassadeur de Jésus-Christ et il doit préparer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est un début pour lequel il a été sauvé. Si je pars, j'ai atteint mon objectif, même si Dieu, je fais ça comment? Moi, c'est pas grave à ce stade-ci. L'idée, c'est est-ce qu'au moins c'est ça que tu veux faire? Après ça, moi, en tant qu'évangéliste puis pasteur de cette église, c'est sûr que je vais bouger dans ce sens-là après ça. Puis je devrais normalement voir des gens qui, avec moi, veulent remplir cette mission-là aussi. Qu'est-ce qu'il dit, pasteur, que je vais le faire? Qu'est-ce qu'il dit que là, tu me dis de faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il me dit que vraiment je vais le faire? Eh bien, ce qui a fait que son mouvement, les fermiers ont compris ces 4, ils ont eu d'abord à qui je vais le dire, qu'est-ce que je veux dire, mon histoire, puis un évangile simple et rapidement annoncé. Deuxièmement, à qui je dois le dire? C'est bien beau de dire à tout le monde, parce que c'est ça que la Bible nous demande, mais pratiquement, c'est pas vrai que quand je vais aller acheter mes légumes, on va parler du Seigneur partout, puis que, tu sais, je vais en parler à tout le monde. Donc, à qui je dois en parler? Bien, c'est sûr que commencer par notre famille, les gens autour, la liste que vous avez écrite, c'est la logique. C'est comme ça que tu vois partout. Dieu sauve un individu, il sauve sa famille. Même Pierre, quand il prêche, il dit, la promesse est pour vous, pour vos familles et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui. Mais oui, absolument, exactement. Il n'y a personne qui est exclu, mais il y a une place à commencer. Puis cette place à commencer là, c'est des gens qui sont juste tout proches de moi. Qu'est-ce qui dit que je vais le faire? Les fermiers, là, il fallait qu'il y ait une réponse en quittant ce soir-là. En tout cas, ils l'ont eu la semaine d'après, parce que la semaine d'après, il y a eu la redevabilité amicale. La redevabilité amicale, c'est que donne pas une responsabilité à quelqu'un si tu n'es pas pour lui demander des comptes sur la responsabilité que tu lui as donnée. On marche comme ça. Quelqu'un de responsable veut dire quelqu'un qui a accepté de prendre la responsabilité de ce qui lui a été demandé. Un jour, Dieu va nous demander, tu as été sauvé pour toi, mais tu as été sauvé pour Dieu et tu as été sauvé pour les autres. Est-ce que tu as rempli cette mission lorsque tu étais sur la terre? Et donc, à petite échelle, c'était la semaine d'après pour ces fermiers-là. Il leur a demandé, puis, les gars, en avez-vous parlé? Sur les 30, il y en avait 15 ou 11 qui en avaient parlé. Les autres, ils n'en avaient pas parlé. Mais ce n'est pas grave. Il y a une genre de honte, peut-être, de devoir rendre des comptes ou de ne pas avoir fait ce qu'il avait dit, peut-être qu'il ferait, peut-être c'était de la peur ou d'autres choses. Mais ce n'est pas grave. Et là, il s'est dit, on ne demandera jamais à un disciple de faire quelque chose si on ne lui demande pas des comptes aussi sur ce qu'il a fait. Et donc, lorsqu'on va évangéliser la personne, puis on dit, j'aimerais ça te voir la semaine prochaine, si tu veux, puis je pourrais répondre à tes questions que tu auras lues. Par exemple, l'Évangile de Jean, un chapitre par semaine. Mais la semaine d'après, il faut que tu lui dises, tu l'as-tu lu finalement, l'Évangile de Jean? Puis il faut qu'elle dise, non. C'est pas grave ça, s'il y a ce sentiment de honte-là qui vient. Parce que quand elle a accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai une image ici, c'est l'image du lion. Puis moi, quand les gens acceptent le Seigneur, je dis, le Seigneur Jésus-Christ veut être le roi de ta vie. Pas juste le serviteur qui te sauve, mais le roi qui veut régner dans ton cœur. C'est ça que tu veux faire. Puis là, la semaine d'après, si la personne n'a pas lu la Bible, bien, tu lui dis, tu peux lui rappeler qu'elle avait décidé d'apprendre sa parole puis de devenir un chrétien obéissant, tu sais, d'obéir à sa parole. Mais comment on peut obéir si on ne l'a pas lu, tu sais? Sans jouer avec la culpabilité, mais la Bible dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Moi, j'ai remarqué que quand on retarde l'obéissance dans un domaine de notre vie, on le retarde souvent dans plein d'autres domaines. Et puis, un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui, sais-tu quoi? Il devient quelqu'un qui obéit à Jésus-Christ. Et donc, ce qu'il a fait, les fermiers sont venus de semaine en semaine comme ça, puis il y avait des comptes à rendre sur ça. Et il acceptait ça. Et c'est ce qui a fait que ceux qui ont venu au Seigneur avec ces fermiers-là ont eu des comptes à rendre dans la troisième semaine. Parce qu'ils ont accepté le Seigneur, puis ils ont déjà été encouragés à parler de leur foi. Puis on est gelés, OK? Parce que on a évangélisé tout ce qui bougeait quand on a accepté le Seigneur. On a essuyé plein de refus, puis on s'est dit, le monde ne veut rien savoir, t'sais. Fait que souvent, les chrétiens, on ne parle plus, on n'évangélise plus autant. Mais un nouveau chrétien qui vient de passer des ténèbres à la lumière, lui, il veut en parler à tout ce qui bouge. Il faut être capable d'être là puis de l'aider là-dedans pour qu'il puisse le faire de la bonne manière. Pas envoyer les gens en enfer comme, tu sais, avec l'ascenseur. Si tu n'acceptes pas le Seigneur, tu t'en vas en enfer. Leur montrer comment partager l'Évangile. Alors, la dernière question, ça c'était la redevabilité amicale. Donc, c'est d'être capable de revenir la semaine d'après, puis former ce disciple-là dans l'obéissance qui lui est demandée dans les Écritures. Okay? Et c'est qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens qui acceptaient le Seigneur devenaient eux aussi des formateurs de disciples. Puis eux autres, ils apprenaient de quoi la semaine d'après, ils leur donnaient à l'autre. La première leçon, c'était comment accepter le Seigneur. Fait que dans le fond, la personne, il faut qu'elle maîtrise comment accepter le Seigneur. Mais en maîtrisant comment accepter le Seigneur, qu'est-ce que la personne fait? Souvent, moi, j'ai remarqué ici au Québec, ça prend à peu près 3 ou 4 présentations de l'Évangile avant d'avoir quelqu'un qui est sûr d'avoir le salut. T'sais. Mais si tu dis, explique-moi donc l'Évangile, comme tu l'as compris, tiens, prends le pamphlet, explique-moi ça. La personne est là, puis elle est là du bord, du côté de celui qui doit partager sa foi. Mais là, tu vois si la personne qui a accepté le Seigneur l'a vraiment compris l'Évangile. Fait que tu lui donnes le pamphlet, tu dis, explique-moi là. T'sais. Donc, qui te dit que je vais le faire? Bien, la redevabilité. Puis quatrièmement, qu'est-ce qui a fait que ce mouvement-là est devenu intense? C'est qu'est-ce que je fais si les gens disent oui? Parce que les gens vont dire oui. Et là, il dit, ben écoute, première leçon, quand quelqu'un dit oui pour écouter ton histoire, c'est la leçon 1 qui commence. Puis la leçon 1, c'est comment avoir la vie éternelle. Puis la deuxième leçon, ben tu viendras la semaine prochaine. Puis, quand la personne aura accepté le Seigneur, tu feras une semaine juste en avant de lui pour lui dire comment on est sûr d'avoir la vie éternelle. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a fait des gens qui disent hey, c'est à nous de faire des disciples. C'est pas aux croyants à devenir un disciple, c'est à nous de faire des disciples. Donc, c'est à nous d'aller dans le monde. Et mon troisième message, qu'est-ce qu'il va avoir pour but? Il va avoir pour but de dire, OK, parfait, c'est à nous de franchir les barrières du disciple jusqu'à temps que le disciple soit capable de franchir ses propres barrières pour entrer dans sa mission. Ça veut dire qu'il y a plein de barrières pour que les gens viennent à l'Église. Puis si on dit, crime, on invite, ça ne marche pas, bien, il faut changer notre façon de penser pour dire, OK, maintenant, d'abord, moi, avez-vous remarqué, les gens, ils ne refusent jamais un café, ils ne refusent jamais une bouffe au restaurant, ils sont toujours open pour un souper entre amis. Ah! Mais tes invités à l'église, mon ami, c'est un choc culturel pour eux. Ça les fait lever tôt le dimanche matin, etc. Donc, dans mon prochain message, on va voir que c'est à nous d'aller dans le monde, de faire des disciples de eux là où ils sont. Puis, tranquillement, il y a peut-être 5 ou 6 oui à dire. Avant, c'était non. Puis là, ça finit par dire. Puis le oui pour l'église locale en année 1. Mais le deuxième oui après avoir accepté le Seigneur, c'est quoi? Après avoir dit oui, je veux avoir la vie éternelle. C'est quoi? Il y en a 2-3 avant ça. Au moins un, en tout cas. Accepte, non, c'est ça. Acceptes-tu de devenir un disciple? Être enseigné par quelqu'un d'autre? Ça se passe-tu à l'église ou ça se passe chez eux? C'est qui fait d'elle un disciple? Exact. Ça se passe-tu à l'église ou ça se passe chez elle? Exactement. Donc, la prochaine étape, c'est accepterais-tu qu'on rouvre la Bible ensemble pour voir qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Puis après ça, il y a d'autres étapes que t'accepterais-tu que je t'enseigne sur le baptême? Puis là, on y va. Tac, on avance. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? La personne, elle connaît 5-6 personnes par son prénom, elle n'est même pas encore venue à l'église, elle veut se faire baptiser, puis elle est déjà en train de préparer son témoignage. Ah oui, troisième leçon, c'est quoi? L'autre oui, c'est est-ce que tu acceptes d'aller en sauver d'autres? Tu viens d'être sauvé d'une mer agitée où ce que les gens se noyaient, t'as été mis sur la plateforme. Tu veux-tu te pencher puis en aller en sauver d'autres? Fais-moi une liste de 5, 10, 15, 20 personnes que tu sais dans ta famille qui ne savent pas ce que tu as entendu. Puis on va t'aider tranquillement à préparer ton témoignage. Puis une fois qu'elle est là puis elle prépare son témoignage, j'étais ça, je viens d'accepter le Seigneur, ça fait ça dans ma vie. Puis là, elle écrit son témoignage, elle est redevable parce qu'elle le lit devant toi, puis elle est corrigeable aussi. Bien là, on va préparer les invitations pour ton baptême. Hein, le baptême? Oui. Laisse-moi te dire que Jésus, une des choses qu'il nous a commandées, c'était d'être baptisé. Je peux-tu te donner le cours sur le baptême? Puis là, il va comme ça, on est rendu à la 5e semaine. Puis là, déjà, la personne, elle est en train d'étudier sur le baptême, puis elle est en train de préparer le témoignage qu'elle va donner le jour de son baptême. Puis les 5 personnes qu'elle va aller voir individuellement pour aller inviter les gens à son baptême. Elle ne va pas juste faire un témoignage là, à son baptême, elle va aller individuellement évangéliser ces gens-là. Puis ça, c'est ce que j'aimerais. Si l'Église, un jour, peut me dégager de plus en plus, c'est ça que moi, je vais former les gens à faire. Et c'est pour ça que ce qui n'est pas important, c'est le nombre qu'on est. Ce qui est important, c'est notre désir de se multiplier. Ça prend une personne qui a accepté le Seigneur puis qui est prêt à aller parler de son Sauveur pour partir un mouvement. C'est sûr que plus qu'on est à partir, plus la boule de laine a grossi vite, la boule de neige a grossi vite. Fait, grosso modo, c'est ça. Je vous ai parlé de mon cœur aujourd'hui, mais l'idée du message aujourd'hui, c'est d'être toujours prêt. Puis l'idée, c'est pas d'aller au maxi parler de votre foi, aller au travail parler de votre foi. C'est préparer votre partage, préparer votre témoignage. Et deux, préparer une façon d'annoncer l'Évangile courtement, en dedans de 3 minutes. Quelque chose qui va être bref. Qui va vous permettre, si le Saint-Esprit dit « OK, j'ai quelqu'un ici, il connaît son histoire, il est prêt à la dire n'importe quand, il n'est pas trop embarrassé par les choses de la vie, il a un peu de temps pour les autres. Oups, j'ai une personne qui a une crise, tout. Je peux-tu te raconter mon histoire? » Taf! Il peut se passer quelque chose d'incroyable. Mais ça, ça prend vous et moi, qu'on a les yeux devant les trous, puis qu'on se dit « Hey, oui, c'est ma responsabilité. » On va terminer avec la Sainte Cène. Le passage de 1 Pierre 3,15 pour vos notes personnelles dit qu'on doit toujours être prêt à défendre l'espérance qui est en nous devant ceux qui nous demandent raison de notre croyance. 1 Pierre 3,15. Ce n'est pas d'aller courir dans le monde puis de parler à tout le monde, c'est d'être prêt. Prépare ton partage. Alors, on va remercier le Seigneur, on va prendre la Sainte Cène, justement, la Sainte Cène, qu'est-ce qu'on dit quand on prend le repas du Seigneur? On se rappelle à nous qu'on a été rachetés à un grand prix, puis on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Lorsqu'on prend ce repas-là, on se rappelle qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Et on veut rendre grâce à Jésus-Christ. Après que les éléments aient été passés, on va faire des actions de grâce sur le rassemblement en ligne avec la Sainte Cène. En ligne avec la Sainte Cène. C'est pas grave. On a besoin d'artistes. On a besoin de gens qui vont à cette heure-là. C'est ça ici. Ça dirige le monde. Regardez les gens, qu'est-ce qu'ils font dans une salle d'attente. Ça dirige le monde présentement, là, dans les communications. Là. Ouais. Ah non, c'est une bénédiction. C'est pour ça que j'étudie en programmation. C'est un engin qui détruit. C'est un engin. Oui. Puis il y a une possibilité que la personne reçoive son étude biblique à chaque semaine, que tu puisses avoir l'étude biblique avec elle, puis elle rentre ses réponses au fur et à mesure, puis il n'y a plus rien, puis de papier, plus rien, c'est accessible à télécharge d'application, etc. Fait qu'on a besoin de gens qui sont des artistes, qui vont nous aider à présenter l'Évangile en dedans de 5 minutes. Des gens qui vont avoir la touche artistique, puis créative. Là, j'ai un autre pamphlet qui s'en vient, là, il va se déplier, puis au fur et à mesure qu'il va se déplier, il y a un origami qui va se créer, qui va présenter l'Évangile. Présentement, je l'ai fait en 2 formats. Les jeux de table, un jeu de table comme ça ici. Puis je l'ai fait aussi sous forme, quand on est sur la rue, une présentation de l'Évangile qui est un petit peu plus graphique, avec une croix. Ça devient une croix à un moment donné. Puis éventuellement, après avoir dit que c'était pas ça, que c'était pas ça, après ça, éventuellement, est-ce que ça devient aussi? C'est l'explication comment accepter le Seigneur. Puis ensuite, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as accepté le Seigneur? Les 4 étapes pour grandir, puis le rendez-vous pour la prochaine semaine, il est là-dedans. Fait qu'il y a déjà un oui pour être formé par quelqu'un d'autre. On a l'image d'une personne ici qui regarde la Bible avec quelqu'un d'autre. Puis il dit, une des choses, quand on veut grandir dans notre foi, c'est de se laisser enseigner par un autre. Fait que là, tu dis, est-ce que tu accepterais, dans le fond, que tu lises l'Évangile cette semaine, tu me poses des questions la semaine prochaine, je pourrais revenir te voir. Le cœur est vif, le cœur vient d'être touché, tu sais. Puis si elle dit non, bien, tu dis, c'est quoi ça veut dire d'avoir accepté le Seigneur comme ton maître, puis d'être prêt à l'obéir avec le lion, là. Fait que c'est vraiment... Mais ça prend des artistes. Moi, tel que tel, mais il y en a qui sont des artistes qui peuvent créer toutes sortes d'affaires comme ça. Il y en a un qui prend des verres d'eau. Sarah m'a envoyé une vidéo. Là, c'est un gars qui prend des verres d'eau, il les tourne à l'envers, il les tourne à l'endroit, il les tasse pour le bord de la ligne, il leur met de la barre de la ligne, il prend le pichet, il tasse le pichet. C'est merveilleux, qu'est-ce qu'il fait le gars? Juste avec des objets. Puis on peut apprendre ça. Une fois que quelqu'un l'a vu, il peut dire, hey, sais-tu qu'on fait un atelier, je te montre comment le faire. Là, tu es dans un restaurant, tu vires le verre à l'envers, puis tu commences à bouger les verres. Puis la personne fait comme, aïe, aïe, j'ai compris les manger, c'est illustré. C'est... On a besoin de gens comme ça qui vont perfectionner le corps de Christ. Parce que ça vaut la peine. Amen. Et c'est pour ça que je suis en programmation. Pour pouvoir créer des choses comme ça, des outils avec l'informatique. Alors, on prend le repas du Seigneur, mais juste avant, on va rendre grâce au Seigneur pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous.